France Culture, l'esprit d'ouverture.
Qui dira la voix de Proust, jamais enregistrée? Mais voilà que resurgissent miraculeusement sur bande magnétique les confidences de Céleste, gouvernante chez lui pendant près de 8 ans.
Proust avait en lui, à sa naissance, à sa nature, le monarque et le grand seigneur, en tout et pour tout.
Grande traversée d'été, racontée par une Céleste à la mémoire intacte et respectueuse. Céleste Albaret chez Monsieur Proust, du 29 juillet au 2 août à 9h05 et sur franceculture.fr. En partenariat avec Le Monde de Proust, ses secrets, son génie, le hors-série du Point Référence.
Vous écoutez France Culture et merci, il est 8h. Voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Benoît, bonjour à tous. Le soulagement d'avoir retrouvé le corps de Steve Maya Canisso se mêle à la colère à Nantes après la divulgation du rapport de l'IGPN. Il dédouane la police de toute responsabilité. Verbatim dans cette édition.
Nous irons ensuite aux États-Unis. À un an et demi de la présidentielle, les deux candidats de l'aile gauche du Parti démocrate se rapprochent. Ils veulent devancer l'ancien vice-président Joe Biden.
En Irak, l'identification des victimes du régime de Saddam Hussein a débuté. Des dizaines de charniers ont été retrouvés. Reportage dans ce journal à Bagdad.
La demande chinoise pour le porc français explose. Cela provoque une hausse des prix dans les rayons et la situation va visiblement durer, vous le comprendrez.
Et puis nous nous intéresserons à Louis de Funès qui a un musée depuis aujourd'hui à Saint-Raphaël dans le sud où quand la culture populaire se mélange à la culture dite légitime. Mais partons d'abord au Royaume-Uni, sillonné cette semaine par son nouveau Premier ministre britannique. À 3 mois tout pile d'une possible sortie de l'Union européenne sans accord, ce n'est pas avec Bruxelles, mais avec l'Écosse, le Pays de Galles et puis aujourd'hui l'Irlande du Nord que Boris Johnson a choisi de discuter. Car avec un Brexit dur, il y a maintenant de réels risques de dissolution du Royaume-Uni, Marina Daras.
Boris Johnson dit vouloir faire tout ce qui est en son pouvoir pour que l'Union britannique n'implose pas, mais depuis le vote sur le Brexit et les années de débâcle politique qui ont suivi, l'Union n'est plus ce qu'elle était. Entre les volontés sécessionnistes de l'Écosse remises au goût du jour depuis le référendum sur l'Europe, la colère des agriculteurs gallois qui se sentent ignorés par Westminster et le Parlement nord-irlandais en stand-by depuis janvier 2017, l'unité britannique a pris un coup. Pour Boris Johnson, qui s'est autoproclamé ministre de l'Union, il faut retrouver ce qui autrefois faisait le lien entre ces quatre nations. Et cela passe par un généreux plan d'investissement pour promouvoir la décentralisation et l'innovation dans les provinces. Mais son refus de rencontrer les leaders européens et de revenir sur le problème du backstop nord-irlandais ne fait que renforcer l'hypothèse d'un Brexit sans accord, un scénario qui risquerait de briser l'équilibre entre les nations britanniques.
Un backstop nord-irlandais comprenait en fait un mécanisme qui éviterait de remettre une frontière physique entre l'Irlande du Nord, nation du Royaume-Uni, et la République d'Irlande. Point de discorde politique toujours entre les deux Irlandes. À Belfast, le parti majoritaire n'en veut pas et donc ce mercredi, cela s'annonce tendu pour le chef de gouvernement, Marina.
Il rencontrera chacun des principaux partis politiques d'Irlande du Nord pour discuter de la restauration du partage du pouvoir au Parlement nord-irlandais. Un partage de pouvoir mis en place lors des accords du Vendredi Saint pour préserver la paix entre les unionistes et les républicains. Des discussions qui seront d'autant plus difficiles que Boris Johnson ne possède de majorité parlementaire que grâce à la coalition faite par Theresa May avec le DUP, le parti unioniste protestant nord-irlandais.
Marina Daras, correspondante de France Culture au Royaume-Uni. C'est le débat du jour dans les matins de France Culture. Quelle confiance les Français ont-ils en la police? Débat tristement illustré ces dernières semaines et ces dernières heures avec la mort de Steve Maya Canisso. Son corps a été retrouvé avant-hier dans la Loire à Nantes, 6 semaines après une intervention controversée de la police sur un quai de la ville le soir de la fête de la musique. Alexane est une amie de Steve, présente hier, Kay Wilson, pour un hommage rendu au jeune homme de 24 ans. Ses sentiments aujourd'hui sont mêlés.
Pour beaucoup de gens, oui, c'est un soulagement d'avoir enfin retrouvé le corps, parce qu'ils vont enfin pouvoir commencer à faire leur deuil. Et même, rien qu'au niveau de la justice, on peut enfin mettre des mots sur ce qui s'est passé, c'est-à-dire homicide involontaire, apparemment. De la colère, oui, parce que on a déjà eu les conclusions de l'IGPN qui nous disent qu'il n'y a pas de lien entre la disparition, la mort de Steve et la charge de police. Je vois pas comment c'est possible qu'il n'y ait pas de lien, en fait, et je vois pas comment ils ont pu tirer leurs conclusions.
Alors effectivement, l'IGPN, la police des polices, a rendu hier un rapport après 3 semaines d'enquête. Ces 276 feuillets dédouanent complètement les forces de l'ordre. Le déroulé de la soirée du 21 juin dernier y est expliqué, Rosalie Lafarge.
Sur les 10 organisateurs, 8 acceptent de baisser le son à un peu plus de 4h du matin. 2 autres, selon les conclusions du rapport, refusent. Et à en croire l'IGPN, tout part de là. La tension monte, les participants, encouragés, nous dit-on, par les 2 DJ insatisfaits, se mettent à insulter les forces de l'ordre et à leur envoyer des projectiles en tout genre, blessant 5 policiers. Pour riposter, poursuit l'IGPN, les forces de l'ordre lancent des grenades et se servent de leur LBD, les lanceurs de balles de défense. C'était justifié, ce n'est pas apparu disproportionné, précise le texte. Entre 8 et 14 personnes tombent dans la Loire, certaines avant l'intervention, certaines pendant, mais c'est écrit noir sur blanc et c'est ce qu'a répété hier le Premier ministre. Aucun élément ne permet de faire un lien direct entre cette intervention et la disparition de Steve Maya Canisso vers 4h, le même jour, dans le même secteur. En l'état, peut-on lire, il n'y a pas à remettre en cause l'intervention collective des forces de l'ordre. Seuls des coups de matraque sur une personne au sol pendant l'intervention posent question et feront l'objet d'une autre enquête.
Merci Rosalie Lafarge. Vous l'avez constaté, pourtant ces conclusions communiquées par le gouvernement hier sont rejetées par les proches des victimes, nous l'avons entendu, et par une partie de la classe politique. Yann Brossat, par exemple, est le porte-parole du Parti communiste français et vous l'avez joint.
Le Premier ministre s'enferme dans une stratégie cynique qui est en réalité une stratégie du déni qui consiste à nier l'évidence et à balayer d'un revers de main un fait que tout le monde a compris, à savoir qu'il y a évidemment un lien entre l'intervention de la police et ce qui s'est passé. Enfin, je veux bien qu'on mette tout en doute, on peut même mettre en doute le fait que la Loire coule à Nantes. Mais à un moment donné, il y a des évidences et je regrette que le Premier ministre continue à nier cette évidence. Pourtant, il y a des témoignages, il y a des images. Il y a par ailleurs eu une longue série d'événements inquiétants dans la stratégie du maintien de l'ordre du gouvernement. Et on aurait quand même pu imaginer qu'un événement aussi dramatique que celui-là conduisent à une remise en cause. Or, pour l'instant, ce que nous dit le Premier ministre, c'est circuler, il n'y a rien à voir.
Le gouvernement critiqué, on le comprend donc dans cette intervention d'Yann Brossat, critiqué notamment le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Il ne s'est exprimé que ce matin dans les colonnes du quotidien régional Ouest-France. S'il y a faute, il y aura sanction, dit-il. Et il rappelle que l'inspection générale de l'administration a été saisie pour une nouvelle enquête. Voici un nouvel obstacle pour Donald Trump dans la course à la présidence pour 2020 et un nouveau conflit judiciaire en vue entre le président et la Californie. Le gouverneur de l'État californien a promulgué une loi hier qui exige que les candidats aux primaires en Californie publient leur déclaration d'impôts, ce que Donald Trump s'est toujours refusé à faire. La présidentielle américaine qui se rapproche avec, côté démocrate cette fois, une nouvelle salve de débat pour la vingtaine de candidats. Candidat démocrate, Joe Biden est toujours favori dans les sondages, mais hier, les deux figures de l'aile gauche du parti, Bernie Sanders et Elizabeth Warren, ont semblé faire front ensemble sur un plateau télévisé, Loïc Loury.
Entre Bernie Sanders et Elizabeth Warren, de bataille il n'y aura pas eu. Les deux candidats progressistes au centre du plateau sont sur la même ligne politique et ils le font savoir.
On ne va pas résoudre les problèmes urgents auxquels nous sommes confrontés avec de petites idées et un manque de caractère.
Je commence à être fatigué de ces démocrates effrayés par les grandes idées. Les républicains, eux, n'ont pas peur des grandes idées.
De grandes idées face à la mollesse des modérés sur l'assurance maladie, le contrôle des armes ou la dette étudiante, les deux candidats sont en phase contre les puissances de l'argent et la corruption.
Notre plus gros problème à Washington, c'est la corruption. Ces entreprises géantes qui ont mis la main sur notre gouvernement et le tiennent à la gorge. Et il faut que nous ayons le courage de riposter.
Face à eux, la jeune garde peine à exister. Pete Buttigieg, notamment, qui semble ici, sans le vouloir, apporter de l'eau à leur moulin progressiste.
Si nous soutenons un programme très à gauche, ils diront que nous sommes des fous socialistes. Si c'est un programme conservateur, vous savez quoi? Ils diront que nous sommes des fous socialistes.
Reste que Sanders et Warren, au coude à coude, dans les sondages, sont loin derrière Joe Biden, un modéré par excellence. Face à lui, l'idée d'une alliance entre les deux leaders de l'aile gauche commence donc à faire son chemin chez les démocrates.
Les États-Unis et la campagne électorale permanente. Pour aller plus loin, vous pourrez retrouver un article dédié au pays et à cette campagne électorale sur franceculture.fr. Voici maintenant un reportage fort tourné pour France Culture à l'Institut médico-légal de Bagdad, capitale irakienne. C'est là qu'arrivent depuis plusieurs jours maintenant des corps exhumés de plusieurs charniers dans le sud du pays, des victimes kurdes exécutées selon les autorités locales en 88 sous Saddam Hussein. Les médecins légistes cherchent à déterminer l'identité de ces victimes et Lucie Wasserman les a rencontrées.
À l'entrée de l'Institut médico-légal de Bagdad, des dizaines de vêtements jonchent le sol, encore imprégnés de l'odeur putride de la mort. Ils appartiennent à des yézidis exhumés le mois dernier au nord de l'Irak, où plus de 70 charniers ont été découverts. À l'intérieur du laboratoire, une trentaine de spécialistes examinent les ossements à la recherche d'une identité, comme l'explique ce médecin.
On détermine ici le sexe, l'âge, les pathologies, les traumatismes, etc.
Tous les corps issus de charniers en Irak sont transférés dans ce laboratoire. Ce sont en majorité les victimes de Daesh, mais aussi parfois celles de Saddam Hussein. Des Kurdes exécutés dans les années 1980 ont ainsi été retrouvés ce mois-ci dans le désert de Samawa.
Ces restes vont être très difficiles à examiner, d'autant plus qu'à Samawa, il y a beaucoup de femmes et d'enfants.
Au total, plus de 1350 ADN différentes ont été enregistrées en 2018. Pour le docteur Mechni, en charge de ces analyses, c'est une question de vérité et de justice qui se joue actuellement en Irak.
Énormément de personnes ont disparu dans différentes zones en Irak et on ne sait pas où et qui exactement est responsable de ces crimes. Notre travail est d'expliquer cela et d'apporter des réponses aux personnes qui enquêtent.
Des éléments de réponse pour les familles et des preuves centrales selon l'ONU pour garantir de futurs procès et des condamnations conformes aux standards internationaux. Après des décennies de conflits, entre 250 000 et 1 million de personnes sont toujours portées disparues en Irak.
Lucie Wasserman à Bagdad pour France Culture. Deux nouveaux missiles balistiques ont été tirés cette nuit par la Corée du Nord, quelques jours après de premiers essais estivaux de missiles de courte portée. Le régime de Pyongyang entend protester contre les exercices militaires qui seront organisés le mois prochain conjointement par la Corée du Sud voisine et par les États-Unis.
8h11 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. La peste porcine progresse, notamment en Chine.
La maladie, qui est non mortelle pour l'homme, a déjà tué 1 million de porcs dans le pays. Un pays premier producteur et surtout premier consommateur mondial. Alors pour répondre à la demande de ses habitants qui consomment 30 kilos de porc par an, la Chine se tourne vers l'Europe, Sarah Ders.
La peste porcine est une véritable catastrophe pour la Chine. Le plus gros consommateur de viande de porc ne peut plus satisfaire sa demande à lui seul. Et cela déstabilise les marchés mondiaux, explique Jean-Paul Simier, spécialiste des marchés agricoles.
On imagine qu'à la fin 2019, on pourrait avoir un impact de baisse de production pour la production chinoise entre moins 10, moins 20, voire moins 30% selon les estimations les plus audacieuses. Chute de la production chinoise de façon importante, ça veut dire recours aux importations, ça veut dire forcément impact sur le niveau des prix.
Des cours qui en France ont déjà progressé de 35%, c'est du jamais vu depuis 20 ans. Et si pour l'instant cette hausse ne se traduit pas dans l'assiette du consommateur, cela pourrait changer selon Boris Duflo, directeur du pôle économie de l'Institut de recherche sur le porc.
Traditionnellement, les négociations commerciales entre les distributeurs et leurs fournisseurs ne sont qu'une fois par an. Et là, il a fallu prendre des mesures pour renégocier les prix en cours d'année. Les distributeurs vont acheter leurs produits plus chers et vont devoir répercuter cette hausse.
Une hausse ou plutôt un réajustement des prix du porc et particulièrement de la charcuterie dans les rayons pour le consommateur, possible dans les semaines ou les mois à venir.
Air France va renouveler sa flotte court et moyen courrier en commandant à Airbus 60 A220. Cela représente 5,5 millions d'euros. La compagnie aérienne française se sépare par ailleurs de certains de ses très grands porteurs, l'A380 notamment, qui consomme 20% à 25% de carburant de plus par siège par rapport aux appareils long courrier de nouvelle génération. L'industrie qui ne se porte pas aussi bien, en revanche pour tous, après avoir échoué à relancer l'usine de sèche-linge Whirlpool à Amiens, l'entreprise WN va être reprise par Ageco Agencement. Le tribunal de commerce d'Amiens valide l'offre qui ne concerne que 44 salariés. 138 autres seront licenciés dans les jours qui viennent. Louis de Funès, un musée inauguré hier soir à Saint-Raphaël. Extrait de films, lettres, affiches, photos, souvenirs. L'acteur était admiré pour ses prestations comiques dans La soupe aux choux ou La grande vadrouille. Une culture populaire qui se ferait donc à travers ce musée une place dans la culture dite légitime. Louis de Funès traverse les classes sociales. Voilà ce que dit Jean-Marc Leverato. Il est sociologue, professeur émérite à l'Université de Lorraine.
Il y a des mouvements donc de circulation, de diffusion donc de certains objets qui font que bon, ils vont traverser les frontières de classe sociale. Et c'est vrai que les films de Louis de Funès, bon, à travers non seulement leur succès au cinéma, mais surtout leur succès à la télévision, ont ainsi pu toucher, on pourrait dire, des générations en fait, hein, donc d'enfants qui, bon, bah, quelle que soit l'origine sociale, s'y sont attachés par le biais du comique même des films, mais aussi par le biais de la manière dont ils ont appréhendé, bon, à travers aussi le regard de leurs parents, ou aussi les échanges avec leur père, quoi. Donc, parce que finalement, on a pu imiter, on a pu évoquer, on a pu rire, on pourrait dire, de beaucoup des mimiques de Louis de Funès, quoi. Voilà. Donc, ce qui explique que le statut de comique national, donc, a pu lui être effectivement attribué, et peut-être donc justifie aux yeux des édiles qui ont choisi de construire aujourd'hui un musée à son honneur, justifie leur décision.
Des propos recueillis par Oana Favenec. En pleine sécheresse et sous le vent, le sud de la France est confronté en ce moment aux incendies. 480 hectares de forêt et de broussailles ont brûlé hier dans le Gard. Le feu a pris également dans l'Hérault, sur la commune de Montbazin, où 4 maisons ont brûlé malgré les efforts des pompiers sur place. Et aujourd'hui encore, la pluie ne va tomber que sur le nord-ouest, près de la mer du Nord et de la Manche. Le temps partout ailleurs sera plutôt ensoleillé, avec ce matin 18 degrés à Brest et Dunkerque, 20 à Paris et Besançon, 22 degrés à Lyon, 27 ce matin à Marseille.